Chapitre 16. Saraï et Agar. Le recours aux moyens humains. Ici, nous voyons l'incrédulité s'emparer de l'esprit d'Abraham et, encore une fois, le détourner pour un temps du sentier de l'heureuse et simple confiance en Dieu. Et Saraï dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va, je te prie, vers ma servante. » Peut-être me bâtirai-je une maison par elle. Verset 2. Ces paroles sont l'expression de l'impatience qui découle de l'incrédulité. Abraham aurait dû les traiter en conséquence et attendre patiemment du Seigneur l'accomplissement de la promesse. Mais notre pauvre cœur naturel préfère tout autre chose à une position d'attente. Il cherche des expédients. Il est disposé à utiliser une ressource quelconque plutôt que de rester dans une position qui lui pèse. D'où l'exhortation « Que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent ce qui avait été promis. » Hébreux 6, verset 12. Dieu fait une promesse, la foi la croit, l'espérance l'anticipe, et la patience en attend tranquillement l'accomplissement. Quelle est pour nous la valeur présente des promesses de Dieu ? Ce qui règle cette valeur, c'est la connaissance expérimentale de Dieu dans nos cœurs. C'est de notre appréciation de Dieu que dépend l'évaluation que nous faisons des promesses. L'âme, soumise et patiente, trouve une riche et pleine récompense en s'attendant ainsi à Dieu pour l'accomplissement de tout ce qu'il a promis. Les paroles de Saraï revenaient à ceci. « L'Éternel m'a manqué. Peut-être que ma servante égyptienne me sera une ressource. » Où peut tomber le cœur incrédule? Il est surprenant de voir à quoi le croyant peut s'attacher quand il a perdu le sentiment de la présence de Dieu. On oublie que sa fidélité ne fait jamais défaut et que lui-même suffit à tout. On perd cette paix intérieure et cet équilibre si nécessaire pour un témoignage fidèle. Comme le monde, on a recours à toute espèce d'expédient pour atteindre son but. C'est une chose triste et dont les conséquences sont toujours fâcheuses de se soustraire à une dépendance absolue de Dieu. Si Saraï avait dit « La nature m'a fait défaut, mais Dieu est ma ressource », tout aurait été bien différent. De fait, la nature lui avait fait défaut. Mais c'était la nature sous une forme, et Saraï, qui n'avait pas encore appris à se défier de la nature sous toutes ses formes, voulut en essayer une autre. Or, la nature ne valait pas mieux en Agar qu'en Saraï. Qu'elle soit vieille ou jeune, la nature est toujours la même aux yeux de Dieu et aux yeux de la foi. Si nous nous appuyons sérieusement sur le Dieu vivant, seul vrai et seul sage, nous pouvons renoncer à tout ce qui vient de la créature. Nous n'avons pas à mépriser les instruments dont Dieu se sert. La foi fait cas de l'instrument, non à cause de lui-même, mais à cause de celui qui l'emploie, tandis que l'incrédulité ne regarde que l'instrument et fait dépendre le succès de sa puissance apparente. La foi en juge d'après la vertu toute-puissante de celui qui, en grâce, se sert de lui. Saül regardant David, et puis Goliath, dit au premier, « Tu n'es pas capable d'aller contre ce Philistin pour combattre avec lui, car tu es un jeune homme. » 1 Samuel 17, verset 33. Mais pour David, la question n'est pas de savoir s'il pourra vaincre le Philistin, mais si l'Éternel en a le pouvoir. Le sentier de la foi est un sentier très simple et très étroit. La foi ne déifie ni ne méprise les moyens. Elle les apprécie pour autant que c'est réellement Dieu qui les emploie, mais pas au-delà. Or, il y a une différence très grande entre l'emploi que Dieu fait de la créature pour me servir et l'emploi que l'homme en fait pour exclure Dieu. Dieu se servit des corbeaux pour nourrir Élie, mais Élie ne se servit pas d'eux pour exclure Dieu. Quand le cœur est réellement occupé de Dieu, il ne se préoccupe pas des moyens, il compte sur Dieu dans la douce assurance que, quels que soient les moyens dont il usera, il bénira, il aidera, il pourvoira. Triste conséquence. Or, dans le cas qui nous occupe, Il est évident qu'Agar n'était pas un instrument employé de Dieu pour accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Dieu avait promis un fils à Abraham, mais il n'avait pas dit que ce fils serait celui d'Agar. Et le récit biblique nous apprend qu'Abraham et Saraï, l'un et l'autre, augmentèrent leur peine en ayant recours à Agar. Celle-ci vit qu'elle avait conçu, et sa maîtresse fut méprisée à ses yeux. Verset 4. Et ce ne fut là que le commencement de toutes les misères qui furent le résultat de cette union. Et Saraï dit à Abraham, « Le tort qui m'est fait est sur toi. » Verset 5. Quand nous avons manqué, nous sommes souvent portés à rejeter la faute sur un autre. Saraï ne faisait pourtant que recueillir le fruit de sa proposition. Puis, avec la permission d'Abraham, elle cherche à se débarrasser de l'épreuve que son impatience lui a attirée. Et Abraham dit à Saraï, « Voici, ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il sera bon à tes yeux. » Et Saraï la maltraita, et elle s'enfuit de devant elle. Verset 6. Mais on ne réussit pas ainsi. Quand nous avons fait des fautes et que nous en subissons les conséquences, nous ne pouvons pas nous soustraire à ces conséquences en usant d'orgueil et de violence. Nous essayons souvent ce moyen, mais nous ne faisons qu'aggraver le mal. Quand nous avons manqué, nous devrions nous humilier, confesser notre faute et attendre de Dieu la délivrance. Mais nous ne voyons rien de semblable dans la conduite de Saraï. Tout au contraire, elle n'a pas la conscience d'avoir mal fait, et loin d'attendre de Dieu la délivrance, elle cherche à se délivrer elle-même, à sa manière. Mais tous les efforts que nous faisons pour redresser nos erreurs, sans les confesser pleinement, ne tendent qu'à rendre notre sentier plus difficile. C'est pourquoi Dieu a voulu qu'Agar revienne à sa maîtresse et mette au monde un fils. Cet enfant ne fut pas le fils de la promesse, mais une épreuve pour Abraham et pour sa maison, comme nous le verrons par la suite. On moissonne ce qu'on a semé. Ce récit place devant nous un principe pratique d'une haute importance. Ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, versets 7 et 8. C'est là un principe invariable que nous rencontrons partout dans l'Écriture et dans notre propre histoire. Dieu pardonne le péché et restaure l'âme, mais il faut que nous recueillions ce que nous avons semé. Abraham et Saraï eurent à supporter pendant des années la présence de la servante et de son fils, et ils ne purent se débarrasser d'eux que conformément à la volonté de Dieu. Il y a une bénédiction particulière à s'abandonner à Dieu. Si Abraham et Saraï l'avaient fait en ce qui concerne la naissance de l'héritier, ils n'auraient jamais été tourmentés par la présence de la servante et de son fils. Mais puisqu'ils avaient suivi un chemin d'indépendance, il fallait qu'ils en subissent les conséquences. Souvent, hélas, nous sommes comme un veau indompté, tandis que notre bonheur serait de soumettre et faire taire notre âme comme un enfant sevré auprès de sa mère. Jérémie 31, verset 18, psaume 131, verset 2. Le veau indompté représente celui qui se débat follement sous le joug des circonstances, rendant son joug plus douloureux par les efforts qu'il fait pour s'en débarrasser. L'enfant sevré est l'image de celui qui courbe humblement la tête en acceptant ce que Dieu veut pour lui et qui rend son sort plus agréable par l'entière soumission de son esprit. Les deux alliances. Sur un autre plan, le Nouveau Testament nous conduit à considérer Agar et son fils comme une figure de la première alliance et de tous ceux qui, par elle, sont nés pour la servitude. Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais celui qui naquit de la servante naquit selon la chair, et celui qui naquit de la femme libre naquit par la promesse. Ces choses doivent être prises dans un sens allégorique. Car ce sont deux alliances, l'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, et c'est Agar. Galates 4, versets 22 à 24. Dans cet important passage, la chair est mise en contraste avec la promesse, et nous apprenons ainsi quelle est la pensée de Dieu, non seulement quant à la signification du mot chair, mais encore quant à l'effort que fait Abraham pour obtenir la semence promise par le moyen d'Agar, au lieu de se confier en la promesse de Dieu. Les deux alliances figurées par Agar et Sarah sont diamétralement opposées l'une à l'autre. La première enfantant pour la servitude soulevait la question de la capacité de l'homme à accomplir quelque chose et faisait dépendre la vie de cette capacité. L'homme qui aura pratiqué ces choses vivra par elles. Romains 10, verset 5. C'est l'alliance d'Agar. Mais l'alliance de Sarah révèle Dieu comme le Dieu de la promesse, promesse entièrement indépendante de l'homme et fondée sur le bon vouloir et le pouvoir de Dieu pour l'accomplir. Dieu n'attache aucun « si » à ses promesses. Il les fait sans condition et est décidé à les accomplir. Et la foi compte sur lui dans une parfaite liberté de cœur. L'erreur dans laquelle les Galates s'étaient laissés entraîner consistait à ajouter quelque chose venant de l'homme à ce que Christ avait déjà accompli sur la croix. L'évangile que Paul leur avait annoncé et que les Galates avaient reçu était la simple présentation de la grâce de Dieu, absolue, sans réserve et sans condition. Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous. Galates 3, verset 1. Ce n'était pas simplement une promesse de Dieu, mais une promesse divinement et glorieusement accomplie. Un Christ crucifié réglait tout quant aux droits de Dieu et aux besoins de l'homme. Mais les faux docteurs renversaient tout l'évangile de Christ en disant « Si vous n'avez pas été circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Acte 15, verset 1. Selon la déclaration de l'apôtre lui-même, ils annulaient réellement la grâce de Dieu, et Christ était mort pour rien. Galates 2, verset 21. Il faut que Christ soit un sauveur complet, sinon il n'est pas un sauveur du tout. Dès que quelqu'un dit « à moins que vous ne soyez ceci ou cela, vous ne pourrez être sauvé », il renverse de fond en comble l'évangile de Christ. Cet évangile me révèle Dieu descendant jusqu'à moi tel que je suis, pécheur coupable, misérable et perdu. Il me révèle Dieu m'apportant une entière rémission de tous mes péchés et une pleine délivrance de mon état de perdition, en vertu de l'œuvre accomplie par Christ sur la croix. Si notre salut dépend de ce que nous soyons quelque chose, ou de ce que nous fassions quelque chose, nous serons inévitablement perdus. Mais Dieu en soit béni, il n'en est pas ainsi. Le grand principe de l'Évangile, c'est que Dieu est tout, et l'homme rien. Ce n'est pas un mélange de Dieu et de l'homme, tout est de Dieu. La paix que donne l'Évangile ne repose pas en partie sur l'œuvre de Christ et en partie sur l'œuvre de l'homme, mais entièrement et uniquement sur l'œuvre de Christ, parce que cette œuvre est parfaite pour toujours et qu'elle rend parfait, comme elle-même, tous ceux qui mettent leur confiance en elle. Sous la loi, Dieu, en quelque sorte, se tenait tranquille pour voir ce que l'homme pourrait faire. Dans l'Évangile, nous voyons Dieu agir et l'homme appelé à se tenir tranquille pour voir la délivrance de Dieu. Voir 2 Chroniques 20, verset 17. Cela étant, l'apôtre n'hésite pas à dire aux Galates « Vous vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Galates 5, verset 4. Si l'homme a quelque chose à faire dans l'œuvre du salut, Dieu est exclu. Et alors, le salut est impossible. Le salut ne peut pas être moitié loi et moitié grâce. Les deux alliances sont parfaitement distinctes. C'est Sarah ou Agar. La loi met l'homme à l'épreuve, elle manifeste quelle est réellement sa valeur, elle démontre qu'il est incurable. Elle le place et le tient sous la malédiction aussi longtemps qu'il a affaire avec elle, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il est vivant. La loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Romains 7, verset 1. Quand il est mort, son autorité cesse nécessairement pour lui. Voyez Romains 7, verset 1 à 6, Galates 2, verset 19, Colossiens 2, verset 20, Colossiens 3, verset 3. Bien qu'elle conserve cette autorité dans toute sa force pour maudire tout homme vivant. L'Évangile, au contraire, affirmant que l'homme est perdu, coupable, mort, révèle Dieu tel qu'il est, comme le sauveur de ceux qui sont perdus, comme celui qui pardonne aux coupables, qui vivifie ceux qui sont morts. Il ne nous présente pas Dieu comme exigeant quoi que ce soit de l'homme, car que pourrait-on attendre d'un homme qui est mort en faillite ? Mais comme manifestant sa libre grâce et offrant son salut. La différence entre les deux alliances, entre la loi et la grâce, est donc immense. Elle explique la force extraordinaire du langage de l'apôtre dans l'Épître aux Galates. Qui vous a ensorcelé ? Je crains pour vous. Je suis en perplexité à votre sujet. Je voudrais que ceux qui vous bouleversent se retranchassent même. Tel est en fait le langage du Saint-Esprit qui connaît la valeur d'un Christ complet, d'un salut complet, et qui sait aussi combien la connaissance de l'un et de l'autre est nécessaire à un pécheur perdu.